Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Dans le livre des Actes, plus précisément dans Actes 4, 36, nous faisons la connaissance d'un Lévite appelé Joseph, originaire de Chypre, à qui les apôtres donnèrent le surnom de Barnabas. Ce surnom est intéressant et mérite que nous nous attardions à ce dernier car il est élogieux. Il décrit un serviteur de Dieu avec qui nous allons aujourd'hui nous familiariser un peu plus. Et ce surnom nous indique une voie à suivre dans notre cheminement chrétien. Actes chapitre 4, nous allons nous reporter à Actes chapitre 4 et le verset 33. Actes 4 et le verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force et témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres. Mais l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, qui signifie « fils d'exhortation », Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Voilà un individu qui avait son cœur à la bonne place, qui était activement impliqué dans la vie de l'Église, qui se souciait des besoins des membres et du ministère, et qui était généreux. Son attitude contraste avec celle d'un couple qui est cité après, dans le chapitre suivant, Ananias et Saphira, et dont les motifs étaient loin d'être bons. Sommes-nous des Barnabas? Êtes-vous un Barnabas spirituel? Ce surnom Barnabas ou Barnabé signifie « fils d'exhortation », mais aussi « fils d'encouragement », comme c'est écrit dans la nouvelle Bible seconde, et « fils de consolation » selon la version Martin. Tout cela se rejoint finalement. À mon avis, la traduction qui résume le mieux ces dispositions est « fils d'encouragement ».« Fils d'encouragement ». Et quel beau surnom! Frères et sœurs, avez-vous un surnom? Comment vous surnomment ceux qui vous connaissent bien? Blanche-Neige et les Sept Nains de Walt Disney, basé sur le conte des frères Grimm en 1937, est un dessin animé connu dans le monde entier. Et on se souvient qu'il y figure sept nains. Blanche-Neige est le nom d'une jeune princesse, très belle et très douce, qui doit s'enfuir quand sa belle-mère, la reine, découvre que la princesse est devenue la plus belle et, jalouse, décide de se débarrasser d'elle, de la supprimer, de la faire tuer. Elle la chasse, demande à l'un de ses serviteurs de la tuer une fois dans la forêt. Le pauvre serviteur n'a pas le cœur à la tuer. Il la laisse s'enfuir. Et Blanche-Neige se retrouve dans la forêt, seule, terrifiée. Mais elle y découvre la maison de sept nains avec qui elle fait la connaissance, qui l'adopte et qui l'héberge. Chacun de ces nains a un surnom qui le décrit très bien. Il y a prof, simplet, grincheux, timide, joyeux, atchoum, et dormeur. Prof est indubitablement le leader de la joyeuse troupe, de la petite bande. Il porte des lunettes. Et les autres nains respectent ses décisions, hormis grincheux qui conteste absolument toutes les décisions qu'il peut prendre. À la mine, prof est chargé d'inspecter, de trier les diamants et autres pierres précieuses que les autres nains extraient des entrailles de la terre. C'est un nain plutôt bavard qui a tendance à commencer une phrase sans jamais vraiment savoir comment la terminer. Il bégaye un peu, ce qui a le don d'énerver au plus haut point Grincheux. Même s'il est vrai que Prof est le leader des sept nains, il est néanmoins un peu trouillard. Simplet est le plus jeune des nains. Il est surnommé Simplet par ses frères car il n'a jamais pu parler. Son frère Joyeux le dédouane en expliquant qu'il n'a jamais essayé de parler. Il a un bonnet violet et une veste trop grande. Il n'est pas bête. Il est plutôt simple d'esprit. Son comportement pourrait se rapprocher de celui d'un petit enfant. Il est très touché par l'arrivée de Blanche-Neige et c'est le nain le plus affectueux avec elle. En effet, à plusieurs reprises, il demande à Blanche-Neige de lui donner un baiser. Il est très sensible. Grincheux est le nain qui a le plus mauvais caractère. Jamais content, toujours râleur. On le reconnaît grâce à sa longue tunique magenta rapiécée de toutes parts, à son bonnet marron, à son gros nez et à ses sourcils noirs toujours froncés. Grincheux est le seul des sept nains qui ose défier les décisions de Prof. Il est toujours agacé par ses frères, par les éternuements d'Achoum. Il conspue les manières et la timidité de Timide, et les bourdes de Simplet le mettent hors de lui. À cause de sa mauvaise humeur, il passe le plus clair de son temps isolé et à rouspéter contre la terre entière. Timide, comme son surnom l'indique, est timide. Face à Blanche-Neige, il est particulièrement peu sûr de lui et bégaye à chaque fois qu'il prend la parole. Il a tendance à rougir facilement, mais c'est le nain le plus sophistiqué. En effet, il aime particulièrement les fleurs. Quand les nains rentrent chez eux et qu'ils trouvent Blanche-Neige assoupie dans un des lits, Timide, subjugué par sa beauté, la qualifie d'ange. Joyeux est le nain le plus potelé et le plus heureux de tous. Il n'arrête pas de sourire et de rigoler. Dans le film, lorsqu'il rentre dans leur maison, Joyeux est le nain qui veut goûter la nourriture qui est en train de mijoter sur le feu. Grincheux, évidemment, l'en empêche suspectant du poison. Achoum est toujours malade. Il n'arrête pas d'éternuer. Et c'est la première victime du rhume des foins. Les autres nains ont tout essayé pour le guérir de ce rhume. Lui nouer la barbe sous le nez, lui mettre les doigts dans le nez, etc. Rien n'y fait. Dormeur, comme son nom l'indique, est toujours fatigué et n'arrête pas de bailler. Lorsqu'ils vont travailler à la mine, Dormeur est chargé de conduire la charrette contenant les pierres précieuses récoltées par les autres nains. Et dans le film de Walt Disney, une mouche vient se poser sur son nez, sans qu'il cherche à s'en débarrasser. Bien qu'il soit toujours fatigué, il semble être l'un des plus perspicaces du groupe. Vous retrouvez-vous un peu, passablement, ou pas du tout dans l'un de ces personnages? Quand quelqu'un reçoit un surnom, c'est généralement de l'avis de plusieurs personnes. Il semble que les apôtres se soient tous mis d'accord pour dire que Joseph était le Barnabas, autrement dit un encourageur. Un apôtre, comme l'indique Actes 14:14, un apôtre qui remontait le moral à tout le monde, un positif, un optimiste. Incidemment, dans le grec, un apôtre, c'est simplement quelqu'un qui est porteur d'un message, un envoyé de Dieu, un émissaire. Et c'est un mot souvent abusé et mal compris, mal interprété. Dans un sens, nos ministres sont des apôtres, ils sont des envoyés de Dieu, ils sont des émissaires, ils parlent de la part de Dieu. Le mot apôtre, on lui a donné toutes sortes de noms, et vous avez des gens qui insistent toujours à ce qu'on dise que M. Armstrong était un apôtre. Ben oui, c'était un apôtre, mais il n'y a pas que lui. Nous avons même des spécialistes de grec. Ben, ils sont spécialistes de grec, mais ils ne comprennent toujours rien parce qu'ils insistent sur ce mot. Enfin, c'est autre chose. Passons à autre chose. Ce n'est pas le sujet de mon message d'aujourd'hui, mais il était apôtre. Il était apôtre. Encourager, c'est inciter, c'est stimuler, c'est réconforter, aiguillonner, exciter, favoriser, galvaniser, approuver, exhorter, donner du cœur au ventre. C'est tout cela encourager, n'est-ce pas? Dans ce monde négatif, nous avons besoin d'optimisme, de fils d'encouragement. Êtes-vous un Barnabas? Sommes-nous des Barnabas? Pourquoi encourager? Parce que c'est un trait divin. Et les fils d'encouragement ont la foi que tout finira bien, que Dieu accomplira son plan. Ce sont des optimistes, des gens qui ont la foi, qui sont sereins et qui ne sont pas inquiets tout le temps. Ils ont confiance à Dieu, qui savent que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés conformément à son dessein. Romains 8, 28. Et non des individus qui s'apitoient sur leur sort, qui sont tournés sur eux-mêmes et sont des grincheux. Les vrais chrétiens ont besoin d'être comme le nain joyeux. Être joyeux, c'est aussi avoir un minimum d'humour. Avoir de l'humour, ce n'est pas se prendre trop au sérieux, mais par contre, prendre la vie très au sérieux. Dans l'Église, comme dans le monde, nous avons des profs, des simplets, des grincheux. Oui, oui, nous en avons. Des timides, des joyeux, des atchoums et des dormeurs. Sept types d'individus, sept types de chrétiens. Comment vous surnomme-t-on? Lequel de ces types vous décrit le mieux? S'il y en a un, peut-être vous appartenez à un autre type. Je ne dis pas que vous devez automatiquement être l'un d'eux, mais je pense que ces sept caractères sont pas mal typiques, n'est-ce pas? Alors nous devons plus ou moins nous reconnaître dans l'un d'eux, plus ou moins, peut-être dans plusieurs d'ailleurs. Joseph était surnommé Barnabas. Probablement parce qu'il était toujours disposé à servir les autres. Barnabas aidait les responsables, il aida les responsables de l'Église à Jérusalem à accepter Paul. Il était un catalyseur de joie et d'optimisme, pourrait-on dire. Reportons-nous à Marc, chapitre 9, verset 26, Marc 9, 26. Marc 9, 26. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Il faut se mettre à leur place. Voilà un homme qui avait persécuté l'Église, les vrais chrétiens, et d'un seul coup, c'est un peu comme s'il tourne sa veste. Alors, on peut se mettre à leur place quand même. Ils se demandaient, mais est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il est sincère? Il a fait jeter en prison et peut-être même mettre à mort certains de nos frères et sœurs. Alors, on ne sait pas. Hein. Mais il le craignait, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors, qui? Barnabas. Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Donc, il s'érige en tant que témoin, il prend sa défense, il le présente aux autres. Il dit, il a des bons fruits, il a déjà porté des bons fruits, il prêche la bonne chose, il prêche la vérité. Et Barnabas les convainquit. Il insista, il se dressa comme témoin de ce que Saul, ou Paul, celui qui allait devenir Paul, avait fait depuis qu'il avait été humilié sur le chemin de Damas, depuis que Dieu l'avait appelé. Barnabas avait la vision de ce que Dieu accomplissait. Il comprenait le potentiel que Paul avait. Il prit la défense de Saul et rassura les apôtres. Aurions-nous fait la même chose? Barnabas était prompt à agir. Il s'empressait de faire le nécessaire quand il voyait un besoin, et nous en avons comme ça dans l'Église, aujourd'hui aussi. Des individus qui voient un besoin et tout de suite, ils se portent volontaires, ils font ce qu'il faut. C'est très bien, c'est très bien. Tous n'ont pas ce don, cette qualité, mais nous en avons comme cela. Et quand il voyait, quand Barnabas voyait qu'il y avait des besoins dans l'Église, dans le ministère, ben, il se mettait au travail, il agissait. Acte chapitre 11, verset 19, maintenant. Acte chapitre 11 et le verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La main du Seigneur était sur eux, avec un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Et le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem. Et ils envoyèrent qui ? Barnabas. Ils avaient confiance dans cet homme, ils savaient que c'était un positif, un encourageur, quelqu'un qui faisait du bon travail. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Alors, il se réjouit, on voit déjà son caractère, il se réjouit en voyant ce qu'il voyait. Il voyait que Dieu accomplissait quelque chose, qu'il accomplissait une œuvre, il se réjouit. Et autre réaction de cet homme, dont nous étudions le caractère aujourd'hui, c'est qu'il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Un autre passage clé. Un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Cela nous décrit-il? Est-ce que nous sommes des Barnabas, nous aussi? Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, ce qui dut prendre du temps et de la persévérance à nouveau. Cela indique, bon, il voulait trouver Paul, il l'a trouvé, mais il l'a cherché et ça a dû prendre un certain temps. Il a dû persévérer. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous l'empereur Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. À nouveau, ça nous révèle quelque chose sur cet individu. Ils avaient confiance en Barnabas et Saul. Ils lui confièrent cette mission. Et quand l'Église se mit à croître, en dépit de la persécution ordonnée par Hérode, Barnabas reçut un appel du Saint-Esprit pour accompagner Paul en voyage d'évangélisation. Acte 13 et le verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Barnabas est cité ici. Et pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas, Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Voilà, c'était des hommes de conscience tous les deux. Barnabas plus spécialement, puisque nous étudions son caractère et son personnage aujourd'hui. Marc ou Jean-Marc, apparemment un proche de Barnabas, servit d'assistant à ce dernier, ainsi qu'à Paul. Je dis un proche parce que la plupart du temps, c'est traduit par cousin, mais ça peut être aussi traduit par neveu. Je pense que nous y reviendrons plus tard. Alors, acte 13, versets 4 et 5, maintenant, acte 13, versets 4 et 5. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. En fait, celui que Paul appelle ici Jean n'était autre que l'apôtre Marc. Comme l'indique le passage Acte 13, 37, Acte 13, 37, vous pouvez simplement noter, je lirai rapidement. Dans Acte 15, 37, nous disons que Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Jean, surnommé Marc. Comme nous le voyons, plusieurs des disciples avaient un surnom. Jean était surnommé Marc. Nous savons que Marc était un proche de Barnabas, car Paul nous le dit dans Colossiens 4, 10. Reportons-nous à Colossiens 4, 10. Colossiens 4, 10. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres, s'il va chez vous, accueillez-le. Et plusieurs traductions ont « neveu » plutôt que « cousin », et certaines traductions ont même « le fils de la sœur de Barnabas ».« Le fils de la sœur de Barnabas ». Bref, ils étaient tous proches, ils étaient de la même famille. Lors de ses voyages d'évangélisation, pour une raison qui n'est pas précisée, Marc cessa, à un moment donné, d'accompagner Paul et ses compagnons. Acte chapitre 13, verset 13. Nous restons toujours à peu près dans les mêmes eaux. Acte 13, 13. Nous revenons à Acte 13. Paul et ses compagnons, y compris Barnabas, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean, c'est-à-dire Marc, se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Barnabas accompagna Paul dans beaucoup de ses déplacements. Acte 13, verset 42 maintenant, nous sommes toujours dans Acte 13. Alors verset 42 maintenant. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et l'exhortèrent à rester attachés à la grâce du Seigneur. Notez ici que les noms sont intervertis, j'expliquerai ça un peu plus loin. Paul et Barnabas, il ne s'agit plus de Barnabas et Paul, mais cette fois-ci de Paul et Barnabas. Et dans le grec, c'est important, parce que dans le grec, la personne qui est située en premier est celle qui a la prééminence à ce moment-là. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, j'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. C'est Dieu qui appelle. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, tous ceux que Dieu appelait, comprenaient. Même chose aujourd'hui. La parole du Seigneur se répandit dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas. Et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Après ce premier voyage, Paul et Barnabas commencèrent à faire les préparatifs pour leur prochain voyage. Barnabas voulut prendre Marc avec lui, ou Marc. Il voulut prendre Marc avec lui, mais Paul refusa. Si bien que leur relation se fissura au point qu'ils se séparèrent. Nous lisons le Nouveau Testament et l'histoire de l'Église, nous rendons compte qu'il y avait des problèmes de personnalité quelquefois, que tout le monde ne s'entendait pas toujours aussi bien qu'on l'aurait pensé. Mais ils étaient humains comme nous. Il y avait des problèmes de personnalité, de temps en autre, les gens ne s'entendent pas comme il faut, mais bon. Acte chapitre 15 et le verset 36. Acte 15, verset 36. Nous sommes souvent dans le livre des Actes parce que c'est là qu'il est question le plus de Barnabas. Hein, Barnabas que nous étudions aujourd'hui pour voir quel genre d'individu il était. Barnabas, le fils d'encouragement, son surnom à nouveau. Acte 15, verset 36. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Ils firent route dans des directions différentes. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères, à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Mais cette brouille ne fut que temporaire. Car Paul écrivit quelques années plus tard qu'il avait besoin de Marc. Donc on voit qu'ils se sont réconciliés en quelque sorte. 2 Timothée chapitre 4 verset 11. 2 Timothée chapitre 4 et le verset 11. 'Luc seul est avec moi. » Luc, le médecin bien-aimé, c'est lui qui a écrit le livre des Actes, qui a rédigé le livre des Actes en même temps que l'Évangile selon Luc. « Luc est seul avec moi. » C'est Paul qui parle ici. « Il prend Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Ah, il m'est utile pour le ministère. Les choses ont changé. Ils sont réconciliés. Barnabas n'est pas mentionné ici, c'est intéressant. Paul, emprisonné, est à la fin de sa course. Il dit avoir combattu le bon combat et sera mis à mort peu après. À ce stade, il semble que Barnabas soit décédé. On n'entend plus parler de lui après. Comme Barnabas, nous sommes appelés à être une source d'encouragement. Réfléchissez bien à ce que cela signifie. Est-ce que nous sommes des sources d'encouragement? Ou alors est-ce que nous sommes comme grincheux? Alors, des sources d'encouragement, particulièrement pour ceux qui sont faibles en la foi. Ils se débattent dans leurs problèmes. Nous devons chercher des occasions de louer ceux qui glorifient et honorent Dieu à travers des vies qui reflètent leur foi. Joseph, le fils d'encouragement, l'apôtre surnommé Barnabas, est l'un des premiers chrétiens mentionnés dans les livres des Actes et dans plusieurs des épîtres de Paul. Il était l'un des piliers dans l'église de Jérusalem. Lui et Paul entreprirent ensemble plusieurs voyages d'évangélisation et défendirent les chrétiens non-juifs à de nombreuses reprises contre les juifs. Ils participèrent à la conférence ministérielle de Jérusalem qui eut lieu vers 50 de notre ère. On appelle cela aussi le Concile de Jérusalem, mais je préfère appeler ça la conférence ministérielle de Jérusalem. Concile, ça fait un peu trop catholique à mon goût. Alors, ils participèrent donc à la conférence ministérielle de Jérusalem qui eut lieu vers 50 de notre ère et est mentionnée dans Actes 15. Il est bon de nous y reporter. Reportons-nous à Actes 15, verset 1, Actes chapitre 15 et le verset 1. Acte 15, 1. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. À nouveau, vous avez Paul et Barnabas. Intéressant, n'est-ce pas? L'ordre des deux, l'ordre des personnes citées. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Je lis ça, et c'est typique, ça c'est du barnabisme ça. Ils causèrent la joie à un grand nombre de frères. Sommes-nous des Barnabas? Ou des Barnabés. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens, pas étonnant, qui avaient cru, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Typique. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendent la parole, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux ayant purifié leur cœur par la foi. » Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas. À nouveau, on écoute Barnabas, un homme digne de confiance, un encourageur professionnel, Et Paul, alors là, voilà, Barnabas et Paul, intéressant comment ces noms sont intervertis. Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit « Homme frère, écoutez-moi. » Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit « Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, j'en séparerai les ruines. et je la redresserai. Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. Et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur évite de s'abstenir des souillures, des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas, un autre surnom. Vous voyez, il y a un certain nombre de surnoms dans la Bible. Quel est votre surnom? Êtes-vous un Barnabas? Jude appelé Barsabas et Silas, homme considéré entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre à six consuls, les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie, en Cilicie. Salut! Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leurs discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ah, Barnabas en premier cette fois-ci. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça aussi, c'est intéressant. Ils ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà le genre d'individus qu'ils étaient. Vous et moi, un jour, peut-être, à l'avenir, nous devrons plus directement exposer nos vies pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sommes-nous prêts à le faire, comme Paul et Barnabas l'étaient? Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Oubliez ces pharisiens qui insistent sur la circoncision et tout cela, qui n'ont rien compris. Car il a paru bon au Saint-Esprit à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche, chose contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Eux donc, ayant pris congé de l'église, allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Donc, de Jérusalem, ils vont à Antioche, ils remettent cette lettre avec la décision des principaux apôtres. Après l'avoir lue, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix, retournés vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas, Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Il est possible qu'à ce stade, Barnabas commence à vieillir aussi et soit moins impliqué, mais nous ne savons pas, nous verrons cela un jour, mais Paul prend le dessus, Paul prend la prééminence à ce stade. Barnabas était un homme de confiance, quelqu'un de proactif, sur qui l'on pouvait compter, un homme positif et encourageant, efficace, portant de bons fruits. La proclamation de l'Évangile à Antioche ayant fait de nombreux convertis parmi les non-juifs, l'Église de Jérusalem y avait envoyé Barnabas, comme nous l'avons vu, pour qu'il supervise cette congrégation d'Antioche et qu'il supervise les visites aux personnes intéressées. C'est la même chose aujourd'hui. Et Barnabas avait été si occupé qu'il s'était rendu à Tarse à la recherche de Saul, comme nous l'avons vu, ou de Paul. Et nous avons lu cela dans Actes 11, c'était les versets 25 à 26. Apparemment, Barnabas, comme Paul, avait un emploi pour subvenir à ses besoins. Ce n'était pas nécessaire, mais C'est ce qu'ils avaient décidé tous les deux à l'époque. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Et j'ai choisi pour ce passage de citer la Nouvelle Bible Second. La Nouvelle Bible Second. N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une sœur en tant qu'épouse? Ils étaient mariés la plupart du temps. Comme le font les autres apôtres, les frères du Seigneur et Céphas. Ou bien sommes-nous les seuls, Barnabé et moi, à ne pas avoir le droit de ne pas travailler? Il y a toujours des gens qui disent, ah, bon, les ministres, ils devraient avoir leur profession. Ben oui, mais qui va s'occuper de vous? Vous savez, ça revient souvent sur la sellette, là. Si vous n'avez pas des ministres qui sont disponibles pour s'occuper de vous, pour prêcher, pour préparer les sermons et les études bibliques, pour faire les visites, le ministère est un emploi à plein temps, je vous le garantis. C'est un emploi à plein temps et qui demande beaucoup de sacrifices. On ne peut pas avoir un ministre qui, en même temps, a un travail à côté. C'est impossible. Il y a quelques années, nous avons essayé ça parce que c'est un peu ce qui commençait à être prêché. Ah ben maintenant, les ministres, on n'a plus réellement besoin de ministres, on a besoin juste d'anciens. Et puis, ah oui, mais ça commençait à devenir désastreux. Parce que les membres étaient négligés. Le ministère a le droit de vivre du ministère, de vivre de l'Évangile. Qui combat jamais dans une armée à ses propres frais? Qui plante une vigne sans en manger le fruit? Qui fait paître un troupeau sans se nourrir du lait du troupeau? Est-ce en humain que je parle ainsi? La loi ne dit-elle pas aussi? En effet, il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain. Dieu a-t-il souci des bœufs? Oui. En réalité, n'est-ce pas à cause de nous qu'il parle ainsi? Oui, c'est à cause de nous que cela a été écrit. Car celui qui laboure doit labourer avec l'espérance, ou dans l'espérance. Et celui qui foule le grain doit le faire dans l'espérance d'en avoir part, d'en avoir sa part. Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, serait-il excessif que nous moissonnions chez vous les biens matériels? Bonne question, n'est-ce pas? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, ne devrions-nous pas en jouir à plus forte raison? Nous avons le droit. Pourtant, nous n'avons pas usé de ce droit. Ils ont choisi, Paul et Barnabas, de ne pas user de ce droit. Ils auraient pu. Au contraire, nous supportons tout pour ne pas créer d'obstacles à la bonne nouvelle du Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du temple sont nourris par le temple? Que ceux qui servent l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel. De même aussi, le Seigneur a prescrit que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de la bonne nouvelle. Paul avait accompagné Barnabas qui était venu le chercher. Il s'était rendu à Antioche où il s'était occupé des membres et des personnes intéressées pendant un an. Après cela, il s'était rendu à Jérusalem où ils avaient apporté de la part de l'église d'Antioche des dons pour subvenir aux besoins des chrétiens démunis de la Judée. Paul et Barnabas étaient ensuite retournés à Antioche, emmenant avec eux Marc, cousin ou neveu de Barnabas. Ils s'étaient ensuite rendus à Chypre et dans plusieurs des villes principales de Pamphylie, de Pisidie et de Lycaonie. À Paphos, Barnabas et Saul furent convoqués par le proconsul de Chypre, Sergius Paulus, qui s'intéressait à la vérité. On se souvient qu'un magicien, faux prophète juif, surnommé Bar-Jésus, un autre surnom, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, et qui était en fait Élimas, le magicien, pas un vrai chrétien, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Et il est question de cette entrevue dans Actes 13, verset 6 à 11, si cela vous intéresse, vous connaissez probablement cela. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir d'Actes 13, 9, Paul n'est plus appelé Saul, mais Paul. Et il n'est plus question de Barnabas et de Paul, mais de Paul et de Barnabas. C'est seulement dans Actes 14, 14 et dans Actes 15, versets 12 à 25, acte 14, 14 et acte 15, versets 12 à 25, que Barnabas est cité en premier parce qu'il est plus étroitement lié à la congrégation de Jérusalem que Paul. Donc on voit, il y a un ordre, l'ordre dans lequel les prénoms sont mentionnés montre qui, à ce moment-là, est le plus important ou prééminent. Paul passe pour être le plus éloquent quand les habitants de Lystre le prennent pour Mercure et Barnabas pour Jupiter. Barnabas n'était pas parfait. Comme nous, il avait ses faiblesses. Et l'Écriture parle d'un moment où il se laissa influencer par Pierre et se compromit à l'égard des non-juifs convertis. Après la conférence ministérielle de Jérusalem, quand Barnabas et Paul retournèrent à Antioche, Pierre les accompagna et il eut un moment de faiblesse. Et Paul évoque cet incident dans Galates chapitre 2 et le verset 11, verset 11 à 14, Galates 2. Et pourquoi est-ce que je lis ce passage? Parce que Barnabas, lui, est impliqué dans cette situation. Alors, comme je dis, il n'était pas parfait, mais dans l'ensemble, c'est très positif le profil ou la description que l'on a de Barnabas, très positif. Mais là, il y a un petit moment de faiblesse qui montre que nous ne sommes pas parfaits. Il y a des moments où nous nous laissons entraîner du mauvais côté aussi. Galates chapitre 2. Et verset 11. Alors c'est Paul qui parle ici. Lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Ah! En effet, avant l'arrivée de quelques personnages de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Pas de problème, mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, ces personnes, de l'entourage de Jacques, il s'esquiva et il se tint à l'écart par crainte des circoncis. Ah, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Il y a eu un moment où sa foi n'a pas été aussi forte. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation. Vous voyez le pouvoir de l'exemple, un mauvais exemple, les autres commencent à faire la même chose. Ah, si Pierre fait ça, restons du côté de Pierre. Et peut-être dans certains cas, il devait se dire, il a peut-être ses raisons, je ne sais pas. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné dans leur hypocrisie. Il fut entraîné dans leur hypocrisie. Cela ne nous arrive-t-il pas à nous aussi? Voyant qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser, à faire comme les juifs? Barnabas se laissa donc entraîner par l'hypocrisie de Pierre, mais c'est le seul passage où il est décrit comme faisant quelque chose de répréhensible. Barnabas était comme nous, il n'était pas parfait, mais quand on étudie sa vie telle qu'elle est présentée dans les évangiles, dans les écritures, comme c'est écrit dans Acte 11, 24, il est écrit que c'était un homme de bien. Nous l'avons lu déjà, mais revenons là-dessus. C'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. À nouveau, posons-nous la question, est-ce que cela nous décrit? Est-ce que c'est notre surnom? Est-ce qu'on nous surnomme à Barnabas? Est-ce qu'on nous surnomme Barnabas? Est-ce qu'on va nous surnommer Barnabas? Finalement, tous les membres de l'Église devraient être des Barnabas, des fils d'encouragement. Et dans le même ordre d'idées, on peut lire aussi, c'est écrit dans d'autres traductions, fils d'exhortation ou fils de consolation. Mais tout cela rejoint la même idée, n'est-ce pas? Alors, il exhortait, il consolait, il encourageait. Et comme nous l'avons vu en lisant plusieurs passages, il était généreux. Il n'hésitait pas à vendre l'un de ses biens, de ses champs, pour aider l'Église. Quand il voyait qu'il y avait un besoin, il se portait aussi volontaire pour y remédier. Il était digne de confiance. On pouvait compter sur lui. Les responsables de l'Église à Jérusalem l'envoyèrent à Antioche, qui comptait sur lui, et lui faisait confiance. C'était un optimiste qui, comme nous l'avons lu dans Actes 11, 23, se réjouit de la grâce de Dieu quand il vit que Dieu accomplissait ce que Dieu accomplissait. Et en cela, on peut dire aussi que Barnabas avait de la vision, de la vision. Il n'avait pas des visions. Il y a une différence entre les deux, hein. Avoir de la vision ou avoir des visions, hein. Quand on a des visions, c'est dangereux, hein. Sauf évidemment quand ça vient de la part de Dieu, mais Dieu ne nous donne plus des visions. Ça, c'était plus spécialement sous l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il faut dans le Nouveau Testament. Nous n'avons plus besoin de visions ou de révélations. Bon, peut-être qu'il y a quelques visions qui reviendront à la fin, c'est possible. Mais ça sera quand même pas quelque chose de normal ou d'ordinaire. Alors, dans le même passage, il est précisé qu'il exhorta les membres à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Autrement dit, à s'accrocher, à endurer, à persévérer. Il n'était pas du genre à abandonner. Il était engagé. Sommes-nous engagés, nous aussi? Toutes ces choses, nous pouvons apprendre cela, nous inspirer de Barnabas, qui était un fils d'encouragement. Dans Actes 15, 3, hein, il dit qu'il... il est écrit que Barnabas était de ceux qui causèrent une grande joie à tous les frères. Est-ce que nous faisons la même chose? Est-ce que cela nous décrit? Est-ce que c'est cela notre surnom? Divers passages montrent qu'il avait aussi du zèle. Zèle, c'était un autre trait de caractère que Barnabas avait. Barnabas avait du courage aussi. Il devint un ami proche de Saul, qui devint Paul. Et comme nous l'avons lu dans Actes 9, 27, il se rendit à Jérusalem et il prit la défense de Paul et il leur expliqua tout ce que Dieu avait fait dans Paul. Et à ce moment-là, ils comprirent que Dieu appelait Paul, Saul à l'époque, qui devint Paul. Il fallait avoir du courage pour faire cela. Il fallait aussi qu'il ait une certaine crédibilité, que Barnabas ait une certaine crédibilité auprès des responsables de Jérusalem, à Jérusalem. Frères et sœurs, les gens nous écoutent-ils? Nos frères et sœurs nous prennent-ils au sérieux? Non seulement Joseph était un Barnabas, un fils d'encouragement, mais il avait aussi du courage lui-même. Et comme nous l'avons lu dans Actes 15, 26, Barnabas est l'un de ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était un grand courageux. Il faut avoir du courage pour faire cela. Avons-nous ce courage? Avons-nous ce type de courage? Sommes-nous disposés à exposer nos vies pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ? Le courage de persévérer jusqu'à la fin? Sommes-nous des Barnabas spirituels? Frères et sœurs, quel est votre surnom? Comment vous surnomme-t-on? Comment vous décrit-on? Si on ne vous donne pas un surnom, comment vous décrit-on? Êtes-vous prof? Simplet? Grincheux? Timide, joyeux, atchoum, ou dormeur. Joyeux serait un bon choix. Il y avait dans Barnabas beaucoup de joie, de cette joie issue de l'action du Saint-Esprit, car c'est un fruit de l'Esprit qui se traduit par les diverses qualités dont faisait preuve cet apôtre. Comment vous surnomme-t-on? Le pacifiste, l'enjoué, le patient, le bon, le bienveillant, le grand croyant, le doux, le tempérant. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses, au contraire. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Barnabas passa beaucoup de temps à Antioche. C'est à Antioche que l'on appela chrétiens, pour la première fois, ceux qui suivaient la voie de notre Père Céleste et de Christ. Nous avons déjà ce beau surnom qui doit se mériter. Montrons-nous en dignes. Que diriez-vous d'ajouter à ce surnom un autre surnom ? Charité, charité. De sorte que quand on pense à vous en tant qu'individu et surtout en tant que chrétien et enfant de Dieu en puissance, on ait presque le réflexe de vous appeler charité. La charité est patiente ou longanime. La charité est serviable ou pleine de bonté. Elle n'est pas envieuse ou n'use point d'insolence. La charité ne se vante pas ou ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas ou ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien d'inconvenant ou n'est point malhonnête, ne cherche pas son intérêt ou son profit, ne s'irrite pas ou ne s'aigrit point, ne pense point au mal ou ne tient pas compte du mal ou n'impute pas le mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, ou avec la vérité, ou met sa joie dans la vérité. Elle supporte tout, elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout ou endure tout. La charité ne passe jamais ou ne périt jamais. 1 Corinthiens 13, et j'ai utilisé plusieurs versions que j'ai mixées ensemble. Aura-t-on le réflexe, en vous voyant, de vous surnommer charité ? Il est indéniable que Barnabas faisait preuve de charité. C'est un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et un fils d'encouragement. S'il était parmi nous aujourd'hui, il nous encouragerait tous. Quel genre d'encouragement pourrait-il nous donner ? Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire à plaire pour, et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point, ne t'effraie point. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Ce grand serviteur de Dieu, Barnabas, causa une grande joie à tous les frères. Et il a de quoi nous inspirer, nous inciter à suivre son exemple. Sommes-nous des Barnabas spirituels ? Avons-nous l'intention d'en devenir ? Tout chrétien digne de ce nom le devrait. Je vous souhaite à tous une bonne fin de sabbat. Je vous souhaite bon courage et je vous dis au revoir et à bientôt.